Voilà, merci beaucoup. Et à la fin de ces trois journées, je voudrais simplement d'abord remercier et féliciter l'URMIS d'avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque. Et c'est pour ça que nous l'avons, comme Fabrice Dume vient de le rappeler, soutenu, et que j'ai très volontiers accepté, sur l'invitation de votre présidente de Paris Diderot, de venir dire, non pas une conclusion, ça n'a rien à voir, mais mon point de vue à la fin de ces journées. Je voudrais juste faire deux petites remarques personnelles. Ici, je me retrouve au cœur de ce nouveau quartier, la ZAC Paris-Rive-Gauche, que j'ai créé, si j'ose dire, lorsque j'étais maire du 13e arrondissement dans les années 90, et nous avions, dès ce moment-là, à la fin des années 90, conçu que l'installation de Paris 7, ici, le transfert en quelque sorte de Paris 7, du quartier latin dans le 13e arrondissement, dans ce nouveau quartier, serait un geste très fort. Et je suis extrêmement heureux de voir à quel point Paris 7, Paris Diderot s'est installé ici et comment son installation dans le 13e arrondissement correspond aussi à une période de grand développement à tout point de vue de cette université. Et puis, un deuxième élément, c'est que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de travailler avec l'URMIS souvent ou sur ses travaux, parce que j'ai créé au début des années 2000, j'ai lancé au début des années 2000 le Musée national de l'histoire de l'immigration, et naturellement la partie historique des réflexions de migration et société a été très importante pour la mise en place de ce projet. L'intérêt de ce colloque pour nous, c'est naturellement d'abord, tout simplement, la collaboration entre le défenseur des droits et les acteurs du monde académique pour produire un savoir renouvelé ou inédit sur les champs de compétences de l'institution défenseur des droits. Mais très spécifiquement, bien entendu, l'autre intérêt, c'est que je suis, et le défenseur des droits en tant qu'institution, mais moi personnellement, attaché à ce que l'ensemble des acteurs, les politiques, les académiques, les praticiens du droit, et puis les profs, les élèves, les étudiants, aient une meilleure appréhension de l'importance du phénomène des discriminations en général et des discriminations raciales en particulier. Ce colloque porte un regard, c'est ça qui m'a intéressé, tout azimut sur l'école et l'université de ce point de vue. Il documente donc une complexité de ce sujet, mais aussi toutes ces implications spécifiques, comme j'y ai assisté là, au cours de la dernière table ronde, pour les enseignants, les personnels administratifs, les élèves, les étudiants. Je crois qu'un tel colloque donc, participe donc d'une prise de conscience nécessaire à l'amorce d'un changement des pratiques et, pour ce qui me concerne, au renforcement de l'effectivité des droits. Vous avez restitué vos recherches, vous avez parlé, je viens de l'entendre, de l'action de l'éducation nationale. Ma position institutionnelle, il faut bien le voir, est particulière. Je suis une sorte de contrôleur de l'action publique, des services publics, à partir naturellement de la notion des droits fondamentaux, de la mise en œuvre des droits fondamentaux, et je suis un peu en surplomb, en quelque sorte. Je ne suis pas au milieu sur le plan du champ où les choses se passent. Je ne suis pas au milieu de la bagarre s'il y a bagarre, par exemple. Je suis plutôt au-dessus, mais je pense que, et je vais essayer de le démontrer de manière possible, j'ai une appréhension assez bonne des choses et je peux participer, et je peux aider à faire avancer dans le bon sens, c'est-à-dire lutter contre les discriminations, en prendre conscience, lutter contre les discriminations et rétablir ou établir des situations d'égalité. Je prendrai d'abord appui sur la spécificité de notre cadre juridique, de notre méthode juridique, quand nous instruisons les réclamations que nous recevons. Donc je vais parler des dossiers que je peux traiter concernant les discriminations raciales. Et puis, je prendrai un deuxième point de vue, c'est celui qui nous est donné à travers la compétence que j'ai aussi en matière de, pas seulement d'application du droit tel qu'il existe, mais de promotion de l'égalité et de l'accès au droit, c'est-à-dire d'essayer de faire avancer le droit positif. Donc, dans cette action de promotion, au-delà de nos réclamations, je vais évoquer quelques éléments de connaissance rigoureuse et objective qui relèvent notamment d'une grande enquête que nous avons eu l'occasion de faire au printemps de 2016. D'abord, mon intervention sur les demandes et sur les réclamations qui est notre, je dirais, notre quotidien. La loi organique de 2011 qui donne les compétences du défenseur des droits, qui a été créée par ailleurs par la réforme constitutionnelle de 2008, dit que l'une de mes cinq missions, c'est de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ainsi que de promouvoir l'égalité. Les engagements internationaux, c'est par exemple la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et j'ai été très intéressé d'ailleurs par la petite incidente qui a été faite tout à l'heure sur la manière dont les personnes handicapées peuvent être traitées dans le système d'enseignement et notamment dans le système universitaire. C'est une expérience très courante, malheureusement pour nous. Ce qui veut donc dire, très clairement, que je ne suis pas compétent, moi, pour la lutte contre le racisme au sens de la loi sur la presse du 29 juillet 1880. C'est les tribunaux qui sont compétents. Ni compétent pour les violences avec circonstances aggravantes telles que le racisme. Ces propos, ces faits, ces infractions ne relèvent pas directement de ma compétence. Encore une fois, ils relèvent d'une saisine des juges compétents. J'interviens au titre de ma compétence en matière de lutte contre des discriminations fondées sur l'appartenance, c'est ce que dit la loi, hein, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, une nation, sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion, ou sur l'origine, et ça c'est la loi donc, du 27 mai 2008 qui a défini ce type de discrimination. Il y a 23, je rappelle qu'aujourd'hui nous en sommes à, suivant la manière dont on calcule, 23 ou 25 critères légaux de discrimination rassemblés aujourd'hui complètement dans la loi de 2008. Il faut noter que le lieu de résidence, le patronyme, l'apparence physique sont également des critères qui peuvent être mobilisés et que nous mobilisons pour décrire, pour constituer en quelque sorte la discrimination raciale sous toutes ses formes. Parce que c'est une discrimination qui est souvent intersectionnelle, fondée sur des motifs tout à fait multiples. Si les dossiers de harcèlement moral discriminatoire fondés sur l'origine ou la religion, réelle ou supposée, que nous instruisons, font apparaître des comportements, propos ou écrits explicitement raciste ou antisémite ou xénophobe. Il faut, et on ajoute aujourd'hui, homophobe, transphobe, handiphobe aussi, ça existe. Il faut souligner que les discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée, qu'elles soient intentionnelles ou non, relèvent davantage de la part de leurs auteurs de stéréotypes racistes, parfois mobilisés inconsciemment, plutôt que d'idéologie. Nous les apprendons à partir donc de l'étude de leurs effets et les éléments de fait qui caractérisent la différence de traitement que je tente d'établir, que tentent d'établir nos juristes, lorsque nous instruisons des saisines pour discrimination dans ce domaine. En 2017, j'ai traité 5405 saisines en matière de discrimination. Elles se répartissent en gros de la manière suivante. Le premier critère de discrimination, plus de 20%, c'est handicap et état de santé. Le deuxième critère de discrimination le plus fréquemment invoqué, c'est-à-dire 17% des saisines, c'est celui de l'origine. Nous avons ensuite les saisines qui concernent la nationalité, et qui sont donc souvent connexes, c'est 7% de l'ensemble des saisines, celles concernant les convictions religieuses, un peu plus de 4%. Les saisines, les discriminations fondées sur l'origine sont principalement invoquées dans le domaine du travail, puisque c'est 32% dans l'emploi privé et 18% dans l'emploi public. J'y reviendrai tout à l'heure en invoquant une autre étude que nous avons publiée il y a quelques jours. Ces discriminations touchent également, naturellement, les services publics et, parmi ces services publics, naturellement, l'éducation nationale. L'accès aux biens et services privés, les prestations privées, par exemple, je ne sais pas moi, une salle de fitness, c'est des cas qui existent, c'est seulement 10%. Le logement, 8%. Mais le logement, il est clair que c'est un de ces domaines dans lesquels il y a beaucoup de choses non vues, non sues. C'est absolument évident. Et d'autre part, l'un des intervenants tout à l'heure en a parlé, les relations avec les forces de sécurité sont également invoquées, c'est-à-dire la manière dont se passent, par exemple, les contrôles d'identité. Je rappelle que dans l'étude sur l'accès au droit, dont je vais parler tout à l'heure à propos des discriminations raciales, un des premiers éléments que j'ai publié au début de 2017, c'est la manière dont sont perçues et, d'autre part, expérimentées les relations entre la police, la gendarmerie et la population, et qui montrent qu'une partie de la population est naturellement spécifiquement visée par ces contrôles d'identité. Je rappelle d'ailleurs que la publication de cette étude s'est faite exactement 15 jours avant que se produisent les événements de Aulnay-sous-Bois où a été, vous vous souvenez, malmené un jeune de cette ville. Et donc il y avait une sorte naturellement d'écho tragique entre les résultats objectifs de l'étude et la réalité que chacun pouvait voir à la télévision. Pour les discriminations qui sont liées à la religion, car aujourd'hui, comme vous le savez, le mélange des genres est de mise, et dans le langage, dans l'opinion publique, arabe-musulman, ça veut dire la même chose. C'est devenu totalement interchangeable. Et nous le retrouvons, naturellement, dans les enquêtes et dans nos réclamations. Pour les discriminations donc liées à la religion, 13% des dossiers concernent l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Mais, cependant, c'est encore dans l'emploi que ces discriminations sont davantage rapportées. Quoique, je fais cette petite observation au passage, il ne faut pas se laisser prendre à toute la médiatisation qui est faite souvent sur le fait religieux en entreprise. Hein. En réalité, le fait religieux en entreprise, il se passe beaucoup mieux, ou il est beaucoup plus anodin qu'on ne veut bien dire. C'est-à-dire que les entreprises, petites ou grandes, intègrent beaucoup mieux la liberté de conscience que ce qu'on veut bien, la liberté de culte, que ce qu'on veut bien dire pour faire des titres dans les journaux ou dans les magazines. S'ajoute à ça aussi les discriminations liées à la nationalité, qui sont majoritairement invoquées dans les domaines de la protection de l'enfance, parce que nous avons notamment beaucoup de cas qui concernent, par exemple, des enfants de gens du voyage ou de Rome, ou des cas qui concernent les mineurs non accompagnés. Malgré le nombre de saisines relatives aux critères de l'origine qui sont adressées aux défenseurs des droits, il faut que je rappelle cependant que les dossiers réunissant les conditions permettant de soutenir une intervention significative de ma part demeurent en fait peu nombreux. La preuve, c'est toujours la question, restant en cette matière difficile à établir. Parenthèse là aussi. Tout à l'heure, j'ai entendu le chef d'établissement qui était ici parler du recours à la loi pénale. Il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'en matière de lutte contre les discriminations, la loi pénale est très peu utilisée et très peu appliquée. Et quand je fais comme je fais le tour des cours d'appel, je vois bien que, dans une très grande cour d'appel, le procureur général me dit « Cette année, j'ai eu 10 plaintes à ce sujet. » Et il ajoute « J'en ai classé 9. Je n'en ai poursuivi qu'une. » À cause du fait que, au pénal, il est extrêmement difficile de porter et de prouver l'accusation dans ces domaines, et de manière générale sur la discrimination, pas seulement sur la discrimination raciale. Et c'est pour cela que je dis toujours, et je le disais par exemple récemment lorsque le harcèlement sexuel a fait l'objet de beaucoup de prises de position, j'ai expliqué que il valait mieux suivre une procédure civile, s'appuyer sur le code du travail, s'appuyer sur la loi de 2008 sur la discrimination, mais partie civile, pas partie pénale, pas l'article 225 du code pénal, parce que au moins, quand on est au civil, on a la possibilité de bénéficier de ce que la loi et la jurisprudence a accepté, celle de la Cour de cassation et celle du Conseil d'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve. En gros, ça consiste pour moi à fonctionner de la manière suivante. Quand j'ai analysé un truc, j'envoie à un mis en cause une note récapitulative et je lui dis en gros, si vous me faites la démonstration que ce que je vous dis, c'est-à-dire vous avez discriminé, vous ne l'avez pas fait, etc., si vous me le démontrez, ok, si vous ne me le démontrez pas, je dirais que vous avez discriminé et j'en tirerai les conséquences. Autrement dit, c'est à lui de prouver et pas à moi, en quelque sorte comme un accusateur ou comme un procureur, d'en faire la preuve. Alors qu'au pénal, l'accusation doit être prouvée par celui qui la porte. Je finis mon cours du soir de droit pénal, mais c'est juste pour dire que vous tous qui êtes des praticiens, Il faut que vous ayez ça dans la tête. Hein. Et d'où le fait que je dis, adressez-vous aux défenseurs des droits, ce n'est pas pour augmenter mon chiffre d'affaires, mais c'est parce que simplement, je pense que c'est une voie un peu plus efficace. Je vais vous parler de deux ou trois problématiques récurrentes qui ressortent du traitement des saisines. L'origine et la nationalité apparaissent comme un obstacle à une scolarisation effective. Et là, on en parle beaucoup dans les journaux, et notamment de cette région Île-de-France, nous sommes régulièrement saisis de dossiers relatifs à des refus d'inscription en école maternelle et primaire pour des enfants étrangers ou en très grande précarité sociale, et en particulier s'il s'agit d'enfants roms ou d'enfants, par exemple, qui vivent parce que le SAMU social de Paris les fait habiter dans un hôtel social qui se trouve dans une commune de l'Essonne, par exemple, et le maire de cette commune dit « Ah non, moi je ne les connais pas, ils ne vont pas venir dans mon école. » Et naturellement, il invoque le fait qu'ils sont de passage, ils ont été mis là par le SAMU social de Paris, etc. Mais le véritable motif, naturellement, c'est qu'ils sont étrangers ou notamment Rome. C'est pareil pour eux. C'est donc la question, elle se double naturellement d'une autre question. C'est en fait que c'est une question aussi de précarité, parce que ce sont des personnes qui sont dans une particulière vulnérabilité du fait, par exemple, qu'ils vivent, donc, comme je le disais, dans des hébergements sociaux et notamment dans des hôtels. C'est une atteinte au droit à l'éducation, c'est une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, c'est une discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur le critère de l'origine, mais aussi sur le lieu de résidence, la particulière vulnérabilité, etc. Alors, c'est une affaire qui est réglable, contrairement à beaucoup d'autres, puisque le préfet peut se substituer, quand je le lui demande, au maire qui ne veut pas inscrire, les préfets le font, comme les inspecteurs d'académie, mais vous avez des situations qui sont tout à fait stupéfiantes, et il faut bien le dire, dans un paramètre qui est purement politique et électoral, il y a des maires qui systématiquement refusent et qui le font savoir à ce qu'ils considèrent comme la population majoritaire dans leur commune, c'est-à-dire disent « Moi, je refuse d'inscrire à l'école les enfants étrangers. Tant que vous m'aurez comme maire, on n'inscrira pas à l'école des enfants étrangers. Voilà. Donc votez pour moi. » C'est ça le mécanisme. Hein. Bon. Dans le secondaire, on a des délais d'affectation particulièrement longs pour des élèves allophones, et qui sont les délais encore accrus pour les mineurs non accompagnés. Parce que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance prend du temps, et elle conditionne la possibilité d'affectation des établissements scolaires. Alors il y a des endroits, comme ici par exemple à Paris, où par chance le CASNAV décide de prendre en charge certains élèves, avant même que la décision définitive soit prise, avant que le juge ait statué, etc. Mais c'est relativement rare, et puis ça implique tout simplement que l'éducation nationale ait les moyens de le faire, et par exemple les enseignants. Il y a un centre à Ivry pour les familles et les enfants. Dans ce centre, il y a une école, c'est formidable, mais parce que l'académie a donné au CASNAV 4 enseignants, depuis le début de l'année dernière, pour le faire. C'est clair que c'est une question d'allocation des moyens et en particulier des effectifs d'enseignants. En second lieu, les discriminations liées à la religion dans les parcours scolaires et universitaires. Elles sont relativement rares, mais elles sont assez spectaculaires. Naturellement, je me suis occupé de cas comme des écoles dont le règlement intérieur interdisait le port du voile pour les mères accompagnatrices des sorties scolaires. Vous savez, je le dis parce que ça ne se dit pas beaucoup, il faut le mettre noir sur blanc. La circulaire Châtel de 2012 n'existe plus. La circulaire Châtel de 2012, elle était faite pour la rentrée. La rentrée était faite, c'est terminé. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter qu'il y a une circulaire qui va. Non, la circulaire Châtel, elle n'existe plus. On est dans la situation où on apprécie, dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d'État, au cas par cas, mais en général, aujourd'hui, la situation, c'est que les mères voilées peuvent accompagner les sorties scolaires. Simplement, nous avons eu des cas, nous, et nous les avons réglés dans ce sens-là, et par exemple, nous avons fait changer le règlement intérieur de ces écoles, par exemple. Mais dans l'enseignement supérieur, on a eu le cas, par exemple, d'un étudiant de confession musulmane, d'une étudiante, auquel on demandait de se dévoiler pendant les examens. Et c'est clair que, comme vous le savez, l'interdiction des signes religieux qui s'applique depuis la loi de 2004 dans l'enseignement primaire et secondaire ne s'applique pas dans l'enseignement supérieur. Et nous l'avons dit et nous avons fait changer les choses, puisque l'université a modifié son règlement des examens et supprimé toute référence à l'obligation de composer visage et oreille découvert, ce qui était inscrit dans le règlement. Et puis, troisième type de cas, c'est le fait que, de manière générale, il faut poser le principe et rappeler le principe, chaque fois je le fais, l'exigence de neutralité des usagers du service public de l'éducation ne saurait s'entendre au-delà du cadre légal ou s'appliquer à des tiers assimilés abusivement à des collaborateurs du service public. C'est à ça que sert le droit, c'est que quelquefois, on peut cadrer des comportements qui, par ailleurs, relèvent simplement du rapport de force entre les groupes sociaux. Et c'est à ça que sert le droit, et c'est pour ça qu'il faut, j'en dirai un mot tout à l'heure, l'apprendre aux enfants, parce que c'est un levier dont il faut qu'ils aient conscience, qui peut leur servir toute leur vie pour se mouvoir en société, en tout cas dans une société républicaine. Le deuxième point de vue que je veux prendre, c'est celui qui est issu de l'enquête accès au droit que j'ai conduite au printemps 2016 en population générale, 5300 et des poussières personnes interrogées, et qui nous permet, entre autres, de rendre compte du ressenti et des expériences de discrimination raciste et de racisme parmi les jeunes de 18 à 25 ans dans les contextes scolaires et universitaires. Cette enquête a produit, je crois, sur ce sujet, comme sur les contrôles d'identité dont je parlais tout à l'heure, un savoir objectif à la fois sur l'ampleur des ressentis et des expériences vécues. Un quart des jeunes, donc qui ont répondu, déclarent avoir été victimes de propos, comportements ou injures racistes au cours des 5 dernières années. Je parle des 18-25 ans, hein, au cours des 5 dernières années. Dans 7% des cas, l'expression de ce racisme s'est manifestée à l'école ou à l'université, c'est-à-dire à l'intérieur de l'établissement. Cette proportion augmente parmi les jeunes qui pensent être perçus comme non-blancs ou musulmans. Parmi les jeunes qui pensent être perçus comme non-blancs, 1 sur 2 déclare avoir été l'objet de propos, comportements ou injures racistes. Et parmi les jeunes pensant être perçus comme musulmans, 1 sur 2 aussi déclare avoir fait l'objet de propos, comportements ou injures racistes. Je fais une parenthèse, cette étude-là, au début de l'année prochaine, nous la publierons globalement avec des enrichis d'articles, de contributions, etc., sous forme d'un livre. Concernant l'ampleur des discriminations, 90% des jeunes, ça c'est la perception, hein, pensent qu'aujourd'hui en France, des personnes sont discriminées, tous critères confondus, à l'école ou à l'université. Un étudiant sur deux déclare avoir été témoin d'un traitement défavorable ou d'une discrimination en raison de la couleur de peau ou de l'origine d'une personne. Et cette perception renvoie à des expériences vécues par certains d'entre eux. 15% des jeunes dans leur ensemble, 60% des jeunes se déclarant perçus comme musulmans, 40% des jeunes se déclarant perçus comme non-blancs, déclarent avoir vécu une discrimination à raison de leur origine ou couleur de peau dans les 5 ans. Ça, c'est l'expérience. Hein. Pour tous ces jeunes, dans la moitié des cas, ces situations se rencontrent à l'université. Ces résultats sont naturellement alarmants et nous interpellent. Et à propos de ce que j'ai entendu tout à l'heure, il est clair que il nous interpelle d'abord sur une nécessité. C'est de parler, d'entendre et d'écouter. Mais ensuite, naturellement, nous interpelle sur notre capacité à traiter dans les établissements scolaires et universitaires, mais aussi les organismes de recours comme moi, ces allégations de discrimination et de racisme. Je pense que aujourd'hui, il y a la nécessité de beaucoup faire, de beaucoup développer dans toutes les communautés, petites communautés scolaires ou immenses communautés universitaires, comme par exemple cette maison de Paris d'Hiro, de multiplier les filières d'information, les recours internes, d'utiliser les médiateurs d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais naturellement, in fine, éventuellement le défenseur des droits, mais comme nous l'avons vu dans d'autres cas qui concernent alors des petits, dans d'autres circonstances, par exemple des questions de harcèlement, la réactivité du système, je dirais en moyenne, est faible. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, qui n'est pas une idée qu'on peut dire cynique ou intéressé ou opportuniste, mais qui fait partie de la culture, en quelque sorte, de la mentalité. L'idée qu'il faut étaler le truc, qu'il faut essayer de pas trop en rajouter, voilà, c'est ça l'idée qui est quand même la plus généralement répartie. Et nous, en particulier sur les cas qui, chez les gauches, chez les petits en particulier, concerne les harcèlements et notamment les comportements entre élèves, hein. Au contraire, nous l'avons écrit dans des rapports l'année dernière ou il y a 2 ans, nous préconisons une réaction immédiate, une réaction remontante immédiate. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos de l'université, mais je pense que c'est une des leçons qu'il faut tirer de cela. On ne peut plus se contenter de dire ça va passer et non, je ne le crois pas. Parce que, j'ajoute, que l'étude, elle montre aussi que le non-recours, c'est le comportement le plus habituel des intéressés eux-mêmes. Hein. 97% des jeunes dans l'étude ont déclaré que l'on peut porter plainte lorsqu'on est confronté à une discrimination, mais 34% seulement indiquent connaître les voies de recours, et 90% des jeunes victimes de discrimination n'ont pas cherché à faire reconnaître la situation dont ils prétendaient souffrir. Donc, il est clair qu'on ne peut pas se contenter de se dire les intéressés vont faire partir la procédure. Il faut qu'il y ait des procédures qui soient des procédures qui, en quelque sorte, appellent au recours et appellent et organisent la réaction, la réactivité des institutions. Je voudrais, avant de conclure, quitter un instant le domaine de l'éducation pour rappeler que, avant-hier, sur la même base de cette étude, j'ai publié le 11e baromètre des discriminations dans l'emploi, en exploitant les résultats de cette étude, pour ce qui concerne une question spécifique, le harcèlement discriminatoire et les propos et les comportements racistes, xénophobes, homophobes, transphobes, sexistes dans les entreprises et dans l'emploi. La perception et l'expérience des personnes qui ont répondu montrent l'importance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de cette discrimination, mais aussi, et on rejoint ce que je viens de dire pour les 18-25 ans dans le scolaire et l'universitaire, mais combien elle frappe inégalement les groupes sociaux, et par exemple, bien davantage les femmes noires ou les jeunes hommes non blancs que les hommes d'âge moyen blancs, par exemple. Les mêmes ressorts produisent les mêmes injustices. Je reviens dans le domaine de l'éducation. Nous avons essayé depuis, avant même le Défenseur, c'est-à-dire sous l'empire de Halde, depuis 2005, nous avons essayé de développer un corpus d'études depuis l'étude sur l'inégalité de traitement selon l'origine dans l'orientation scolaire, qui a été faite en 2011 par l'Halde. Je fais une petite parenthèse, tout à l'heure, je crois que le chef d'établissement a parlé de l'orientation scolaire. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, ce n'est plus un dispositif national, c'est une compétence des régions. Hein. Et les difficultés que vous avez invoquées, peut-être qu'au contraire, elles vont diminuer, mais peut-être qu'elles vont augmenter. On ne sait pas, hein, y a une incertitude. C'est maintenant une compétence régionale. Je ferme la parenthèse. Donc, on avait fait en 2011 une étude sur l'inégalité de traitement dans l'orientation scolaire. Jusqu'à l'étude qui va paraître prochainement, dans quelques jours, sur le dispositif de scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France et des enfants issus de familles itinérantes, dont l'un des auteurs, d'ailleurs, a participé à ce colloque, Maïtenia Armagnac, en passant par deux recherches que nous avons faites avec l'ADEP, auxquelles nous avons participé, en 2012 sur la carte scolaire, en 2016 sur l'égalité des chances, sans oublier l'étude sur la formation à la non-discrimination dans les écoles des professeurs d'école, et à laquelle qu'avait mené Fabrice Dumas. Face à ce constat, et en dehors de ce que je fais, donc le traitement des saisines, les études, j'ai souhaité engager deux actions spécifiques afin d'améliorer l'accès aux droits des victimes de discrimination et peut-être de contribuer à changer les comportements et les pratiques. Un, ayant constaté tout de même que le racisme demeure une notion floue dans l'esprit du grand public, mais également dans celui de beaucoup de professionnels, dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, j'ai créé il y a 3 ans un site internet partenarial, il y a une cinquantaine de partenaires, Villeurbanne qui s'est exprimé tout à l'heure est dedans, et c'est le site qui s'appelle égalité contre racisme, en un seul mot, .fr. C'est à la fois un centre de ressources, un outil d'accès aux droits et un outil de formation. On entend en fait contribuer à l'accès aux droits et à l'information pour agir et se défendre contre le racisme, mais permettre les signalements des contenus racistes, que ceci soit dans les établissements scolaires et universitaires, ou en entreprise, dans l'espace public, ou sur les réseaux sociaux. On fait un travail parallèle, par exemple, à des plateformes comme celle du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos. Je pense que c'est utile que vous puissiez, vous, chacun dans vos domaines, aller apporter votre pierre, puisqu'encore une fois, c'est un portail partenarial, à égalité-contre-racisme.fr. Mais j'ai aussi pris une autre initiative dans le domaine de la promotion du droit, c'est d'essayer de sensibiliser les gosses au droit, au singulier et au pluriel. Et pour ça, j'ai, après avoir travaillé 1 an et demi, j'ai mis au point un programme qui s'appelle Éducadroit, qui est un enseignement non sur Internet, non académique du droit, qui s'adresse non pas aux enfants eux-mêmes, mais aux intermédiaires, aux enseignants, aux associations, etc., et qui cherche à favoriser naturellement, à travers la sensibilisation au droit, la contradiction et l'analyse critique. Hein. C'est l'idée que le droit est un levier pour, justement, par exemple, lutter contre les inégalités et les discriminations. Par exemple, il y a un thème qui s'appelle « Tous égaux devant la loi » et qui permet d'ouvrir des débats avec des enfants et des jeunes sur les discriminations fondées sur l'origine. Vous pourriez, vous tous, directement ou indirectement, vous approprier cet outil comme un élément de votre action. La reconnaissance des discriminations, pour conclure, raciales en France, est donc d'abord, et vous en avez fait la démonstration depuis 3 jours, un enjeu de connaissance. Ce que nous disent, nous, nos saisines, les résultats de l'enquête, mais tout ce que j'ai entendu aussi dans le cadre de ce colloque, c'est que la légitimité de l'enjeu de la lutte contre les discriminations raciales doit sans relâche être réaffirmée, car elle n'est pas complètement intégrée à nos mentalités et à nos pratiques. C'est pour ça d'ailleurs que dans la renégociation des conventions que j'ai avec le ministère de l'Éducation nationale ou avec l'école supérieure de l'enseignement, je vais essayer de renforcer notre participation à la formation, en tout le moins des encadrants, sur les discriminations. Vous vous étonneriez peut-être que, ça a été évoqué tout à l'heure, je termine sans dire un mot sur Parcoursup. Sur Parcoursup, je poursuis actuellement l'instruction des réclamations que j'ai reçues au sujet de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure d'affectation, réclamations qui font état de biais volontaires ou algorithmiques qui auraient causé préjudice aux demandes des élèves venant de certains départements, ayant obtenu telle ou telle catégorie de bac ou présentant tel ou tel profil personnel. Je vais essayer de savoir ce qu'il en est vraiment en utilisant mes méthodes habituelles d'instruction. Et ce que j'espère, c'est naturellement pas sanctionner ce qui s'est fait cette année, mais proposer que dans les améliorations ou les réformes qui vont être décidées pour l'année prochaine, nous puissions intégrer les éventuelles constatations que nous aurions faites. La discrimination, mesdames et messieurs, est au cœur de notre principe d'égalité. L'école et l'université, plus que tout autre, en sont les promoteurs naturels. Quand leur sein, au sein de l'école et l'université, se retrouvent les tensions qui traversent la société française en son ensemble, ne doit pas étonner aucune organisation ou collectif de travail n'y échappe ou n'y résiste. Mais l'attachement à l'égalité et à la méritocratie de l'école et de l'université ne doit pas, justement, les rendre aveugles à ces réalités. Elles ont, vous en avez fait la démonstration pendant 3 jours, les ressources pour instruire, mettre au jour, prévenir et maîtriser les situations, tant sur le plan des savoirs que sur le plan légal. Et à la fin de ce colloque, ma parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, sereine de défenseur des droits, dit que nous avons besoin de lucidité, de courage, de tolérance pour avancer dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos actes, dans les rapports entre les groupes sociaux, sur le chemin escarpé, très escarpé, de l'égalité. Merci.
Merci beaucoup, M. Toubon, pour ce discours extrêmement vivifiant et très soutenant. Alors, il me revient de clore ce colloque, mais bien sûr, ce ne sera qu'un au revoir. Alors, je vais le faire sous mes différentes casquettes, mais dont deux, je nommerai deux ici, celle d'enseignante de Paris Diderot, et aussi celle de chercheur dans mon laboratoire qui s'appelle, donc, URMIS, Unité de Recherche, Migration et Société, qui est un laboratoire porteur des questions de lutte contre le racisme et contre la discrimination depuis sa création, et même sous des formes embryonnaires où ce laboratoire avait un autre nom. Alors, au moment de cette synthèse, forcément rapide de nos échanges, j'ai, en la préparant, hésité sur les éléments que je voulais souligner, tellement les débats ont été intenses et riches. Cependant, je crois que, outre la mise en réseau d'interconnaissances de chercheurs et de praticiens qui œuvrent dans le champ, la première utilité d'un colloque est de permettre le cumul des connaissances. Et aussi, je voudrais faire ressortir peut-être quelques éléments qui m'ont paru saillants sur ce point, dans les différentes communications au cours de ces trois journées. D'abord, il y a une assez grande convergence sur le problème des termes. Le problème à définir le racisme, définir la discrimination, et sans doute donc la nécessité de décoloniser nos façons de penser. Et je donnerai l'exemple que posent les définitions des termes comme ceux de racisme et de discrimination raciale, dans la mesure où on a bien vu dans les communications les contraintes, finalement, que nous imposent parfois, justement, les définitions strictement juridiques et qui défendraient, par exemple, que le premier terme, racisme, serait toujours au niveau idéal et que le deuxième reverrait plutôt toujours aux expressions matérielles. Donc, ces définitions montrent leurs limites pour notre compréhension du phénomène. Et nous avons, au cours de ces journées, entendu des usages extensifs comme un peu une nécessité, que ce soit en empruntant aux définitions assumées dans d'autres espaces sociaux et politiques, comme la notion de racisme institutionnel, la notion de racisme systémique ou de discrimination systémique, ou encore hier dans la table ronde qui présentait les luttes contre le racisme, qui parlait de racisme structurel. Donc ce qui montre finalement que le racisme ne se situe pas que dans les idées, mais a des effets bien concrets qui ne peut pourtant pas toujours être compris comme des discriminations. Si on s'en tient justement à la définition juridique française, seule reconnue a priori formellement comme telle par les acteurs de la loi et par ceux qui adoptent des approches strictement légalistes. La grande convergence, c'est le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la grande convergence des résultats d'enquête avérant le poids du racisme et des discriminations raciales sur les trajectoires scolaires et universitaires, et ipso facto tout au long de l'existence. Je crois que ça a été bien souligné par plusieurs de nos conférenciers, et particulièrement dans la présentation de Calouane Bhopal, de l'importance qu'a le système éducatif dans la reproduction des inégalités, et du coup la responsabilité à débusquer dans ce système même cette reproduction et les mécanismes par lesquels ça passe. Alors certes, les résultats d'enquête peuvent paraître encore fragiles en France, et Anne l'a souligné ce matin, et ils vont sans doute encore faire l'objet ici et là de dénégations, mais ils vont rendre de plus en plus difficile le déni. Et c'est de notre responsabilité de publiciser ces résultats. Le troisième point, me semble-t-il, a été la grande convergence sur les obstacles. Ne serait-ce que la frilosité de nos institutions à accepter de se saisir de cette question du racisme et des discriminations raciales. Mais aussi, toutes les logiques de dénégation qui ont été reprises par les conférenciers. Et Fabrice est revenu ce matin aussi sur le contexte du rapport social dans lequel s'ancrent ces logiques. Les artifices rhétoriques aussi qui visent à évacuer la question au nom de la laïcité ou de la diversité en France. Dans ce sens folklorisé, justement. Mais bien sûr, je retiens aussi le grand obstacle que pose la lutte des places dans la société, le privilège des blancs et les mécanismes d'invisibilisation de l'imposition de la normativité blanche. Quatrième point, la convergence, enfin, des stratégies chemin faisant qu'il faut déployer envers nos institutions, ce que moi j'appelle parfois la stratégie des petits pas. Mais néanmoins, il s'agit de vrais leviers sur lesquels s'appuyer pour faire avancer la question sur les agendas de nos organisations dans un contexte de rétrécissement des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Parmi ces stratégies, que je ne pourrais pas toutes énumérer ici, je souligne celles qui appellent d'une part à l'ouverture d'espaces de parole localement, d'autre part celles qui appellent à comprendre et à analyser les résistances pour les déconstruire, et ça relève bien de la compétence des sciences sociales, sans oublier les dernières suggestions, comme celle de Marie Macandreau ce matin, de contourner les résistances en entrant par la question de l'inclusion, que je trouve intéressante. Celle de M. Toubon, qui invite l'université à multiplier les informations et à rendre visibles les modes de recours pour porter plainte et pour qu'enfin cela remonte. Quatre points, mais il y en aurait bien d'autres. Mais le temps m'est compté là aussi, et je pense que tout le monde a envie de clore après ces trois journées qui ont été aussi intenses mais épuisantes. Je terminerai quand même sur des notes encourageantes pour l'avenir proche et me montrer peut-être un peu moins pessimiste que ne l'a fait Dupieck tantôt. Le ton et le climat pacifié dans lequel se sont déroulés les débats de ce colloque attestent, s'il en est besoin, que nous ne sommes pas les excités, les islamo-gauchistes, étiquettes dont certains aimeraient bien nous affubler. Nous sommes des enseignants, des chercheurs, des usagers de l'école et de l'université, soucieux d'équité, soucieux de l'égalité d'accès au savoir, soucieux du droit à l'égalité de traitement tout au long des apprentissages, dans l'accès aux carrières académiques y compris. Nous tous qui fréquentons l'université, et pour ma part celle-ci, nous tous, que nous soyons étudiants ou salariés de cette institution, nous la voulons exemplaire et nous voulons l'y aider en continuant à faire notre travail. Notre présidente, Madame Thierrissy, a souligné à l'ouverture de ce colloque l'importance de ces rencontres et la responsabilité de notre université d'en appuyer l'organisation. Nous la remercions infiniment. Mais au-delà de cette manifestation, Madame Thierrissy a également souligné avec force qu'il est de notre, je la cite, notre rôle d'universitaire que de mesurer scientifiquement ces phénomènes sociaux de racisme et de discrimination raciale dans le monde académique, de s'appuyer sur des faits, elle dit. Elle a renforcé son propos en précisant que cette démarche scientifique était indispensable parce que face aux polémiques, je la cite à nouveau, la réponse par la recherche efface toute discussion possible. Je ne suis pas tout à fait certaine que les analyses scientifiques échapperont toujours aux polémiques de mauvaise aloi. Mais je veux entendre dans ces propos un soutien à nos travaux de recherche, à commencer par le soutien au lancement cette année de la grande enquête sur le racisme et la discrimination auprès des étudiants et du personnel de Paris Diderot pour donner suite à ce qu'a commencé de dévoiler l'enquête exploratoire l'an dernier, trop rapidement présentée hier par nos jeunes diplômés, mais néanmoins percutante, et Sophie l'a rappelé tout à l'heure avec les extraits qui avaient été rapportés par nos étudiants. Enfin, je terminerai là-dessus. Ne soyons pas trop frustrés, nous publierons à partir de ces trois journées. Et puis, parce qu'il faut bien terminer, je voudrais remercier tous et toutes ici, Monsieur le Défenseur des Droits, de votre présence et de votre soutien. Merci à toute l'équipe organisatrice. Merci à nos étudiants qui nous poussent à améliorer nos pratiques. Merci à tous et à toutes de votre présence et de votre participation pendant ces trois jours.